Sur la planète, du Big Bang à la société de l'information, le rythme et la musique parcourent le temps et investissent l'espace sonore. Les collecteurs de sons, anthropologues modernes, tentent de comprendre le lien entre ce phénomène et l'humanité. Bernard Lomax et son équipe accueillent chaque soir de concert les invités qui devraient leur permettre de découvrir la vérité. Radio HDR et le 106 présentent Radio Lomax, l'émission du 106.
Bienvenue dans Radio Lomax, l'émission du 106. Au programme aujourd'hui, les interviews de Jaffna et de la Maison Tellier, précédées par celles de Pierre Lemarchand, créateur d'Eldorado, qui a écrit leur biographie.
Radio Lomax, l'émission du 106.
Et on accueille Jaffna. Jaffna, c'est deux artistes, Bravin et Stan. Un premier EP en 2017, Ripples. Un second vient de sortir intitulé Rétrograde. Bonsoir à vous, messieurs.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bravin, vous êtes allemand, d'origine sri-lankaise. Vous avez vécu à Londres 15 ans, puis à Paris, pianiste classique au départ. Après des études à Londres, vous avez été compositeur de musique pour des films de messages publicitaires et des messages publicitaires.
Exactement, oui.
Le fait d'avoir vécu ce vécu de citoyen sans frontières, ça a produit quelque chose de particulier chez vous ?
Je crois juste un esprit un peu plus ouvert, je crois. Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai... juste plutôt ça.
Et ça a un impact dans votre création musicale, vous pensez?
Oui, sûrement. En fait, parce que dans chaque pays, il y a des choses, il y a des trends de musique très particuliers. Et du coup, on écoute, il y a toujours des choses qu'on écoute particulièrement dans les certains endroits. Donc, vous avez plus d'influence et tout.
Stan, vous êtes parisien.
Ouais.
Une carrière en cuisine avant de vous lancer dans la musique, c'est ce qu'on apprend sur la biographie. La cuisine, ça fait encore partie de votre vie?
Ça fait partie de ma vie, mais plus personnellement, quoi. C'est plus professionnellement en tout cas.
C'est quoi votre plat préféré ?
Mon plat préféré.
Celui que vous préférez préparer.
Alors,
évidemment.
Moi, celui que je préfère préparer, c'est une bonne blanquette.
Une bonne blanquette.
Ouais, quand c'est bien fait, c'est très très bon.
J'en ai fait une il y a 2-3 jours. C'est,
ah ouais.
Mais c'est vrai qu'il y a un petit côté technique dans la blanquette.
Ah ouais, c'est très dur. Hein.
Bravin, vous avez déjà goûté la cuisine
de
Stan ?
Ah oui, c'est excellent. Bon, trop trop bon.
La prochaine fois, il faudra venir avec un plat sous le coude. Dans la langue tamoule, Jaffna se dit Yalpanam.
Yalpanam,
signifiant respectivement harpe et ville ou terre. Et
exactement.
Fait référence à une ancienne...
Oui, vous avez fait votre recherche.
J'ai
trop bien.
Ouais. Ça fait référence à une ancienne légende. Elle raconte qu'un luthiste aveugle aurait reçu cette terre en guise de récompense par un roi. Yalpanam signifiait donc la terre du musicien, capitale de la province du nord du Sri Lanka. On y écoute traditionnellement la musique hindoustanie, musique du nord de l'Inde, la carnatique étant la musique du sud principalement pratiquée par les tamouls.
Exactement.
Alors ça, c'est un extrait de chant carnatique, les voix de Silvacane. Je crois que c'est un groupe français qui joue cette musique. Ça vous parle ou pas, cette musique-là?
Ah, moi, oui, beaucoup. En fait, j'ai grandi avec ça. Toute ma vie, on a grandi avec beaucoup de musique, surtout carnatique. Et en fait, c'est une musique classique, on va dire musique classique. En fait.
Traditionnelle, ouais.
Traditionnelle, voilà, c'est ça. Et j'écoute toujours, mais pas beaucoup. En ce moment, mais de temps en temps, oui, ça me parle, ouais, j'adore.
Moi, j'ai découvert cette musique grâce à Bravin, parce que je ne connaissais pas vraiment avant.
Et donc, elle produit quoi, cette musique, chez vous ? Qu'est-ce que vous en tirez de cette musique-là ?
Ben là, en fait, c'est la musique qui est improvisée. Et du coup, nous, quand on compose ensemble, on commence beaucoup avec des improvisations. Surtout le morceau 11 qui est dans Rétrograde, le dernier morceau, là, on a... C'est un peu le principe, c'était ça, parce que surtout c'était avec la voix de Stan et sa musique, on a commencé avec surtout improvisé.
Ouais, ça a été complètement improvisé, il y a eu des superpositions de voix et grâce à ça, on a commencé à créer le morceau, voilà. Etc.
Comment vous travaillez tous les deux ensemble ?
Ça dépend.
Alors moi, à la base, je n'avais pas une formation du tout de musique, donc moi, je m'intéressais beaucoup à la musique électronique. Lui, il avait une formation classique de base et du coup, lui, il a une base classique. Vraiment, c'est bien pour démarrer. Moi, parfois, je chante des choses, il va les reproduire au piano. Et après, maintenant, on compose ensemble à fond sur un logiciel qui s'appelle Ableton.
Lui, il est plus à l'aise avec la voix. Il chante, il a un super instinct. Et moi, parfois, on commence toujours avec clavier et Stan avec la voix. Et parfois, ça dépend aussi. On commence
la voix est un instrument qui va créer une mélodie.
C'est plus expressif, donc on travaille avec ça, on essaie plusieurs choses. Voilà.
Bravin, vous avez une passion pour le cinéma Bollywood, indien, très imprégné de musique, avec une production très variée, avec des consonances de musique traditionnelle ou mondialisée, quelquefois d'ailleurs. Alors ça, c'est Ek Do Tin Baggy, c'est le numéro 2, alors j'imagine qu'il y a eu un numéro 1.
Ah oui, ça me dit, je ne connais pas exactement quel film, mais j'ai déjà entendu, alors c'était assez connu.
C'est ça, ça fait partie des BO qui ont cartonné l'an dernier, en 2018, dans le cinéma Bollywood. Qu'est-ce qui vous plaît à ce point dans cette musique?
Ah oui, ça, spécifiquement ça, j'écoute, moi il y a plusieurs compositeurs, mais il y a un que j'adore, c'est A.R. Rahman, d'ailleurs qui a fait Slumdog Millionaire. Et en fait, il a commencé dans l'année 90. Et pour moi, c'est. En fait, il utilise beaucoup de sons. Il a surtout, à ce moment-là, il a commencé avec des synthés, des sons un peu électroniques. Lui, il était influencé par beaucoup de compositeurs compositeurs western, genre John Williams, Vangelis et tout ça. Mais surtout, il utilise vraiment. Il a vraiment une base, une super mélodie traditionnelle indienne. Mais il fait ça et infusionne avec des instruments western, avec des boîtes à rythme, des trucs synthés, des choses comme ça. Mais juste un très bon mélange, en fait.
Et vous qui avez travaillé sur de la vidéo déjà, ça fait partie des choses sur lesquelles vous aimeriez travailler, un film indien comme ça, vous imaginez le faire?
Je me souviens à l'époque, avant qu'on a commencé Jaffna, en fait, c'était vraiment le patient, en fait.
Il a failli partir en Inde.
Oui, en fait, je suis parti à un moment pour composer un album, pas Bollywood, mais dans ce style. C'était un projet personnel. Et oui, j'ai failli partir, mais après, grâce à Jaffna, j'ai resté. C'est le bon choix.
Et la tendance du Bollywood en ce moment, c'est quoi? Vous tenez au courant de l'actualité ou est-ce que...
Oui, j'écoute toujours, c'était toujours une passion, mais moins, malheureusement. C'est juste, ça commence à changer un peu. Ça devient trop...
Très mondialisé, du coup.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas tout à fait mon goût. Mais quand même, il y a des choses très, très bien. Il y a des artistes. Surtout, il y a beaucoup de musique indépendante maintenant, plus en plus. Parce qu'en fait, en Inde, en général, il n'y a que de musique de films. Mais là aussi, il y a des artistes indépendants, comme on a ici, en fait.
Parce que c'est une vraie industrie, forcément.
Voilà, c'est une énorme industrie. Ouais. C'est énorme. Ouais.
Et Oslo, ça évoque quoi pour vous, Oslo?
C'est la rencontre.
C'est le boss.
On se connaissait. En fait, il était avec ma sœur avant, Bravin. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Mmh. Et on a fait un voyage à Oslo. Et il commençait à peine à utiliser un logiciel de musique. Et moi, ça m'intéressait. Et on a créé notre première musique qui s'appelait Oslo, qu'on n'a jamais sortie d'ailleurs.
Et c'est vraiment la rencontre. Elle s'est vraiment faite là-bas. Et vous vous êtes dit, on y va, on avance.
Ouais, exactement.
Une musique aérienne, donc, entre les nuages qui nous emmène en voyage. Le voyage, c'était un peu la thématique de la soirée. Le voyage, l'ailleurs, le monde global, le village planétaire. Qu'est-ce que ça évoque, ça, pour vous?
C'est hyper important de se nourrir de tout. Mais nous, notre rêve absolu, c'est de pouvoir composer un album à Jaffna et de pouvoir utiliser des instruments de là-bas, etc. Là, dernièrement, on a travaillé avec un percussionniste qui jouait du tabla. C'est une percussion indienne. Et on est passionnés de tout ça. On a vraiment envie de... Puis en plus d'être signé sur le label de Tilassine, qui, lui, sur chaque album, il fait un voyage. Nous, on aimerait bien faire ça après, par la suite.
Ah, du coup, ça donne des envies de voyage pour aller créer sur place, in situ, quoi.
Exactement.
Oui. Ça fait partie des projets.
Ouais.
Dans vos influences communes, vous citez Magic Jordan, rap R&B, Kiasmos, des Islandais qui pratiquent une sorte de minimal techno. Vous citez également Bonobo. Ça, c'est Migration, extrait de leur dernier album qui s'intitule également Migration. Vous citez évidemment Tilassine. Quelle serait la spécificité, selon vous, de cette scène-là? Un son particulier, une posture face au monde, des thématiques communes, ce serait quoi?
Concernant Bonobo, déjà c'est un artiste incroyable parce qu'il utilise plein de sons différents. C'est, il va aller enregistrer des tout petits sons, il travaille sur chaque percussion qu'il fait, etc. Enfin, oui. Nous on l'a vu en concert tous les deux, ça a été le plus beau concert de notre vie.
Ah oui, c'était ouais.
Et pour Tilassine, c'est pareil, c'est ce truc de voyage, d'avoir un engagement à chaque fois qu'il crée un album, que ça soit dans le Transsibérien ou dernièrement dans sa caravane en Argentine.
Il y a des racines qui plongent dans la new soul, la trip-hop, la R&B, l'IDM, m'a soufflé Monsieur Sagawa qui s'occupe des images là en ce moment, l'intelligence dance music dans laquelle on trouve des artistes comme ceux du label Warp, Bonobo c'est plutôt Ninja Tunes. Vous avez baigné dans cette ambiance-là dans votre jeunesse, peut-être qu'à Londres en l'occurrence plus particulièrement.
Oui,
je sais
en
pas.
Fait, oui, à Londres il y a un gros scène. En fait, c'est trap. Et trap music, ouais. Il y a Bonobo, anglais, John Hopkins, qui on écoute beaucoup en ce moment. Mais après, il y a une grosse variété, il y a beaucoup de choses. Il y a plutôt hip-hop aussi, aussi rap, mais c'est assez différent, qui est cool là aussi en fait.
Mais bizarrement, quand il est venu habiter en France, il n'écoutait pas du tout de musique électronique.
Ouais.
Et moi, j'en écoutais beaucoup et on a commencé à se partager beaucoup de choses. Et c'est comme ça aussi.
En fait, c'est grâce à Stan que j'ai découvert cet univers en fait.
Stan, d'ailleurs, vous parlez de votre sœur chanteuse lyrique qui a une certaine influence sur vous.
Tout à fait. Ah bah oui, parce que surtout qu'elle a commencé le chant quand elle avait 6 ans, je crois. Du coup, à la maison, elle a toujours chanté. Et j'ai toujours aimé chanter, je chantais avec elle, mais de façon perso, quoi. Ça n'a jamais été officialisé.
Mais n'empêche que sa présence et le fait qu'elle travaille le chant, ça vous a aussi
bien sûr,
influencé pour la suite.
Ouais, surtout cette rigueur de travail, en tout cas. Ouais.
Il y a un rapport particulier à l'enfance aussi, j'ai l'impression, période où l'imaginaire se construit face au monde, ses mystères. Je pense notamment à Beyond, et le clip de Beyond, c'est ça un peu.
Ouais. C'est surtout que, en tout cas, Retrograde, surtout, moins Cripples, mais Retrograde, on était vraiment dans une ambiance, on avait envie de composer avec des sons très rétro, très années 80. Et il y avait beaucoup de références à aussi des films et des séries qu'on a regardées. Et le clip, en tout cas, c'était un ami de longue date qui était spécialisé en images sous-marines. Et on voulait vraiment un truc dans ce style-là, avec un enfant, avec un truc imaginaire et tout. Donc,
On parlait de chanteuses avec votre sœur. Deux chanteuses invitées sur Retrograde, Dylan et Anna Magidson. Est-ce que vous pouvez nous parler d'elles un peu?
Oui. En fait, Anna, c'est une copine à moi que j'ai rencontrée au début quand je suis arrivé à Paris. C'est une soirée de musique chez GAM, c'est une boîte d'édition, maison d'édition.
Et elle fait partie du groupe Haute.
Oui, elle fait partie du groupe Haute et on l'a rencontrée. Après, un jour, on travaille sur cette morceau Wish You Knew avec Anna. Enfin, on a commencé à travailler sur le instro et on s'est dit ça peut être bien de faire un morceau un peu R&B avec une chanteuse. Ouais. Et d'un coup, moi j'ai dit Anna et on a parlé, elle est venue, on a fait enregistrement, c'était... Ouais.
Et Dylan, elle avait déjà travaillé avec Tilassine et on avait fait le morceau Beyond, à la base il n'y avait pas de voix et c'est Tilassine qui nous a conseillé, il nous a dit peut-être que ça serait cool de le faire avec Dylan.
Mm. Avec Tilassine, vous avez quel genre de relation justement?
Vous êtes très proche? Maintenant on est potes.
Hein. Ouais.
Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au tout début, quand on a commencé à faire de la musique, on lui a envoyé notre musique juste pour avoir un retour professionnel. Mm. Et en fait, il nous a dit j'adore ce que vous faites, je vais vous signer. Et du coup, en fait, on a toujours été dans ce truc-là où on lui envoyait tout, il nous faisait des retours, il nous a beaucoup aidé à avancer, il nous a toujours accompagné. Et comme c'est un tout petit label où il y a juste lui et nous, c'est vraiment, c'est comme une petite famille, quoi.
C'est une famille, vraie relation privilégiée.
Oui, ouais, tout à fait.
Pour terminer, alors on a parlé du potentiel voyage à Jaffna, peut-être que vous le ferez. Je l'espère pour vous. ça se prépare ou pas, en fait?
Non, pas pour l'instant.
Pour le moment, vous l'avez juste en tête.
Oui.
Quel est votre prochain voyage? Voyage musical, voyage mystique ou géographique?
En tout cas, pour les sorties, on travaille sur deux singles normalement qu'on devrait sortir. Et après, pour la suite, tout dépend de ce qui est possible de faire. Nous, on aimerait faire un album, mais peut-être que ça sera un autre EP, on ne sait pas encore.
Et si c'est cet album, vous discutez justement avec Tilassine ou avec d'autres pour essayer de proposer ce voyage à Jaffna?
Non, on n'a pas encore, mais c'est des idées pour l'instant et on a pensé, mais surtout on travaille sur plusieurs morceaux en ce moment. Mais je crois dès qu'on a un peu une idée de l'univers de ces morceaux, peut-être après on va réfléchir ou est-ce, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais pour encore l'instant, c'est encore
le temps de
l'expériment.
Il faut poser quelques jalons encore.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Très bien. Merci à tous les deux d'être venus.
Merci beaucoup.
Répondre à ces quelques questions. Jaffna sur la scène du 106 à 20h25, c'est-à-dire dans une vingtaine de minutes. Merci à vous.
C'est ça. Merci
beaucoup.
À vous. Merci. Bonne soirée.
Et avant d'accueillir la Maison Tellier, on accueille Pierre Lemarchand qui est avec nous ce soir. Ce n'est pas pour parler de son émission radio Eldorado qui nous fait voyager dans les vagues folk ou indie de la chanson d'artisan dans le monde, mais surtout en Amérique, il faut bien le dire, que nous ne parlerons pas non plus, parce que nous l'avons déjà fait, de son chouette bouquin sur l'album Fantaisie militaire de Bachung.
La nuit je mens, je prends des trains à travers.
Ni de celui sur la chanteuse Karen Dalton. Yesterday, any way you made it was just fine. So you turn your days into night time. Ni non plus de son travail de bénévole avec Des Liens, qui veut rendre la culture accessible à tous et notamment à celles et ceux qui en sont le plus loin. Il n'est pas là non plus comme représentant du pôle Image Normandie pour lequel il travaille, mais nous allons parler de son écriture dans un exercice qui accompagne souvent la sortie d'un nouveau disque. C'est l'écriture de biographie qui accompagne, alors est-ce qu'on peut dire vraiment biographie, pas tout à fait peut-être, mais on va en reparler, en tout cas l'écriture de biographie qui accompagne souvent un dossier de presse et qu'on retrouve ensuite par bribes dans des articles de journalistes pressés ou incompétents dans les programmes des salles de concerts aussi, des petits extraits comme ça, ou sur le site internet des artistes par exemple. Bonsoir Pierre.
Bonsoir.
Et si on vous invite justement aujourd'hui, c'est parce que vous vous êtes chargé d'écrire cette biographie qui accompagne la sortie du nouvel album de la Maison Tellier, Primitif Moderne. Vous avez pratiqué cet exercice avec le dernier album de Dominica également, et puis Michel Clou, ex-expérience ou Diabologum, exercice contraint dans lequel il faut faire preuve de style et d'efficacité en termes de communication aussi. C'est vraiment un exercice particulier, cette écriture-là. On le disait tout à l'heure, on peut retrouver des petits extraits par bribes. Quelquefois, donc on, peut-être y a, quand on a une vision de l'écriture, on se dit ah, ben, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pris ça? Pourquoi pas ce morceau-là? Quel regard on a sur la façon dont c'est traité après, cette biographie?
Ah, quel regard on a. Drôle et puis assez émouvant de retrouver ces petits icebergs de mots comme ça flotter au gré des océans de chroniques après qui suivent l'apparition d'un album. Non, mais c'est important parce que ça va être savoir si on a touché juste finalement, parce que l'objectif de ces bios là, hein, on les appelle comme ça même si c'est assez étrange comme mot, c'est impropre, mais de ces biographies qui accompagnent la sortie des disques, c'est bien sûr de parler de ces disques, de les remettre dans le contexte de la trajectoire d'un artiste ou d'un groupe, mais aussi de le présenter, parce que les journalistes reçoivent le disque avec la bio avant que le disque ne sorte. Donc l'idée aussi c'est de pouvoir donner envie à des journalistes, à des auditeurs, d'aller plus loin, d'écouter le disque et ensuite de le chroniquer. Donc il y a comme ça un travail de passeur, peut-être plus que de journaliste vraiment. On n'est pas là dans la critique, on est vraiment dans une chronique qui pose les premières pierres vers la découverte d'un disque.
Donc du coup, il y a quand même une certaine responsabilité finalement avec l'écriture de cette biographie. Est-ce qu'on se pose ce genre de questions quand un jour on vient vous voir et on vous dit « Tiens, tu voudrais pas écrire la biographie de la Maison Tellier ou de Dominica ou... ?»
Ah oui, on se la pose puis on la ressent, hein, cette responsabilité, parce que c'est vrai que c'est quand même très particulier, parce qu'il faut à la fois, je pense, faire surgir sa subjectivité, parce que sinon il n'y a pas d'écriture possible. Et en même temps, se mettre à la place de celui qui va le lire. En même temps, se dire qu'il faut rendre ce disque, lui offrir des chemins vers tout auditeur potentiel. Donc c'est assez particulier, on ne peut pas dire... Ce n'est pas le lieu pour dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas pour telle ou telle raison. C'est le lieu, la biographie, peut-être pour raconter ce qu'est un disque, comment il se situe donc par rapport aux autres disques d'un artiste. Et puis essayer de mettre en lumière sa singularité et... Et c'est là que c'est peut-être le plus délicat d'essayer de soulever son intention ou son propos. Et là, il ne faut pas non plus parler à la place de celui qui a fait le disque. Et c'est peut-être là que c'est le plus difficile, quoi.
Donc c'est une histoire de confiance, c'est aussi une histoire d'amour, parce que j'imagine qu'il faut aimer l'artiste sur lequel on écrit, et l'artiste qui vous demande cette biographie, quand quelquefois ça peut être aussi les maisons de disques, les labels, mais oui. Les artistes aussi, quand ils confient ça à quelqu'un, ça veut dire que voilà, ils lui font totalement confiance et qu'ils aiment aussi l'écriture de la personne, quoi. Il y a un échange comme ça.
Oui, je pense qu'il y a vraiment une relation de confiance. Après, moi, j'en écris pas tant que ça et je le fais toujours par choix. Et à partir du moment où j'accepte, c'est toujours parce que j'ai une grande admiration pour la musique qui va m'être offerte. En avant-première, hein, y a aussi ça qui est très particulier. C'est déjà rien que ça. C'est une marque de confiance parce que quand j'ai écouté le disque de la Maison Tellier, on était en fin octobre, début novembre. Donc c'est il y a déjà longtemps. La sortie était déjà prévue pour cette fin mars. Donc on est vraiment en amont d'une histoire et finalement on est aussi embarqué dans cette histoire. Alors je ne parlerai pas de privilège mais vraiment de confiance et on en mesure la préciosité quand même.
Et comment c'est arrivé dans votre vie d'écrire des biographies pour des artistes comme ça?
C'est assez récent, alors je le faisais auparavant par amitié. Je me rappelle d'une biographie pour King Biscuit par exemple, qui est un groupe rouennais animé par Sylvain Choignet. C'était par amitié et aussi parce que j'ai beaucoup d'admiration pour la musique de ce garçon-là. Et la première, c'était Dominique A pour son dernier disque, La Fragilité, donc c'est assez récent. Ça fait moins d'un an où vraiment, j'ai écrit une biographie parce que la maison de disque me l'a demandé et un contrat nous a liés, quoi. Ça, c'était la première fois. Et donc, c'était pour son disque La Fragilité.
Il y a une commande particulière pour la maison Tellier, par exemple. Comment ça s'est passé?
Non, jamais il y a eu de commande particulière. Et c'est donc moi j'écris, souvent j'écris trop, mais c'est comme ça. Et après on taille un peu dedans. Non, il n'y a jamais de commande a priori. Par contre, ensuite, c'est un aller-retour entre l'artiste, son ou sa manageuse ou manager et moi. Pour essayer alors soit de tailler un peu et d'arriver plus à l'os ou de rentrer plus dans le gabarit traditionnel qu'est une bio. Mais quand même, sur les trois là, derniers exercices en date, Dominique A, Michel Clou et la Maison Tellier, il y a quand même une liberté assez chouette qui m'a été accordée. Et donc non, il n'y a pas eu de refus hein, de quoi que ce soit. Il a fallu juste peut-être un peu écourter parce que j'ai tendance à écrire beaucoup trop, quoi.
Quel lien on peut faire entre l'écriture avec fantaisie militaire, qui est un travail un peu chirurgical, et en même temps de littérature, l'écriture d'une biographie, l'écriture d'une émission de radio qui raconte elle aussi une histoire par le biais des artistes et de leur travail. Quel lien il peut y avoir dans tout ça?
Ouais, le sentiment, en premier lieu, je pense que la musique populaire, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je crois que ça, c'est la première chose, et qu'elle est importante dans nos vies. Et donc, qu'elle nécessite qu'on donne le meilleur de soi-même. Moi, quand j'écris une bio, je vais l'écrire, enfin, je vais attacher une importance forte à chaque ligne. Même si c'est un outil de communication, finalement, plus qu'un objet littéraire. Hein, mais je pense que c'est important de l'envisager comme un objet littéraire. C'est-à-dire qu'on pose des mots sur des notes qui ont été infiniment travaillées, réfléchies, rejouées. Et je pense que c'est important pour aller au plus près de cette musique d'envisager l'écriture de la même manière. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le sens, quoi.
Et sur quel genre, avec quel matériau vous avez travaillé? Parce qu'on revient encore à l'écriture sur Fantaisie militaire. Vous êtes allé à la rencontre des acteurs de ce disque. Vous avez travaillé sur forcément des articles aussi, des interviews de Bachung. Quand on travaille sur cette bio de la Maison Tellier, par exemple, on a quoi pour travailler?
Alors, j'ai reçu, la
disque,
musique.
Ouais.
J'ai reçu la musique, donc les 12 chansons dans l'ordre de leur situation sur le disque. Et puis après, j'ai rencontré deux des Telliers, donc Yannick et Seb, Helmut et Raoul. On a passé une heure et demie ensemble et là, je les ai questionnés, moi, à la fois sur la genèse de ce disque, l'histoire de ce disque, les étapes de création de ce disque, mais aussi l'intention sous-jacente, qu'est-ce qu'ils avaient envie de dire à travers ces chansons-là et ce disque-là, l'esprit qui rôdait sur et autour de ce disque. Donc j'ai recueilli leurs témoignages, c'était important de partir aussi de ça pour donner de l'épaisseur, de la chair. Et puis après, je suis retourné à l'écoute. Et en général, j'écoute deux, trois fois que la musique, puis deux, trois fois que les paroles, et après je commence à écrire.
Et quelle a été l'impression de départ avec ce disque-là?
Bah, dès la première écoute, l'impression quand même d'avoir des chansons incroyables entre les oreilles, quoi. Après, moi, je suis pas très objectif parce que j'ai énormément d'amour pour les chansons de la Maison Tellier depuis leur premier album. Je les suis avec beaucoup de fidélité. Mais il y a à la fois une véritable fidélité de la Maison Tellier à ce qu'ils sont et en même temps une constante évolution. Et ça, on peut appeler ça l'honnêteté, finalement. Et en même temps, une certaine prise de risque. Et moi, les chansons, les 12, m'ont tout de suite parlé, quoi. Et donc, j'étais très heureux d'avoir accepté ça.
Et elle a évolué, cette vision que vous pouviez avoir de ce disque-là, à force de le travailler, après la rencontre?
Oui. Oui, parce que les premières écoutes, on envisage les chansons indépendamment les unes des autres. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure que les écoutes se déroulent, on envisage ces chansons comme constituant un tout, ce tout étant un album, et cet album étant cohérent, cet album visitant, donnant à voir les marottes, les obsessions d'un auteur, compositeur, mais aussi la synergie d'un groupe qui est incomparable et qui est vraiment au meilleur de lui-même sur ce disque-là. C'est-à-dire que il y a aussi ce qui saute aux oreilles, c'est que les chansons sont quasiment enregistrées live. Non pas enregistrer les instruments les uns après les autres, mais il y a une véritable énergie de groupe qui est le ciment de ce disque-là.
Oui, qui sont allés chercher de cette manière-là, oui, pour rendre les choses un petit peu plus brutes, un peu plus rock'n'roll, un petit peu plus puissant aussi, sans doute.
Oui, oui, oui.
Et donc, cette perception, donc, elle a évolué. En fait, la volonté, c'est aussi, dans ce que vous pratiquez quand vous écrivez, c'est la volonté de raconter des histoires, de camper des personnages. Ça veut dire qu'il y a une forme de fiction finalement derrière tout ça. Est-ce que on enjolive un peu les choses? Est-ce qu'on fictionne un peu les choses? Comment ça marche, ça?
Non, mais on.
Parce qu'on dit toujours, pour une bonne biographie, il faut qu'il y ait un bon storytelling, une belle histoire. Quoi.
Oui, on met des éléments dans la lumière et d'autres, on choisit de les mettre un peu plus dans l'ombre et on offre un contraste. Et là, déjà, on fait un travail romanesque, finalement. Et puis aussi, c'est vrai que là, pour celle-ci, mais pour les autres bios aussi, en particulier celle de Dominica, parce que leur musique évoque cela aussi, j'ai essayé de camper des personnages, oui. La musique des Telliers, c'est ça, à mon avis, ce qui demeure l'ancrage folk de ce groupe-là, c'est cet attachement aux personnages, de camper des personnages, les décrire, des personnages proches de nous, finalement. Et ça, c'est à mon avis l'héritage américain, folk américain de la maison Telliers, qui transparaît plus trop dans leur musique aujourd'hui, telle qu'elle est construite, telle qu'elle est jouée, contrairement au premier disque qui était très Americana. Mais il demeure un amour, une affection pour ces personnages qui pourraient être nos voisins, nos frères, nos sœurs. Et on n'est pas du tout dans une écriture, celle de la maison Telliers, à mon sens, hein, qui puise dans la poésie symboliste, par exemple, ou dans l'abstraction. On est vraiment sur quelque chose, on pose un regard extrêmement précis, bienveillant, poétique, sur notre environnement.
La question, c'est justement, est-ce que c'est le même travail pour Dominica, par exemple ?
Dans le grand silence des campagnes, va-t'en savoir ce qui se trame. Il y a parfois un train qui passe, dont le bruit très vite s'efface.
Ou alors Michel Clou, évidemment, puisque Michel Clou aussi, vous avez écrit la biographie, alors que la maison télé s'installe.
Il en aura fallu pour que devienne réalité tout ce pourquoi nous nous sommes si souvent engueulés.
Alors du coup, ça va être moins évident de parler de la maison télé, puisqu'ils sont, ils sont là, c'est toujours plus handicapant. Donc Michel Clou...
Ils sont de chaque côté.
Ben, c'est ça, ils se sont bien placés là, pour si jamais il se passe quelque chose. Enfin, il peut tout se passer. Michel Clou, Dominica, la maison télé, est-ce qu'on écrit de la même façon finalement?
Non. Non, on n'écrit pas de la même façon, parce que l'écriture, elle part quand même de la musique qu'on a entendue. Et des univers qui sont offerts. Et elle est quand même au service de la musique, plus que dans tout autre exercice d'écriture, je pense, quand même, dans la biographie. Donc non, le travail n'est pas du tout le même. Par contre, les ressorts et les obsessions, forcément, qui doivent traverser les lignes que j'écris, demeurent finalement les mêmes. Et on en parlait, cette volonté d'emprunter au mode romanesque, quoi, plutôt que d'offrir une analyse technique ou froide de disques qui, pour moi, n'ont rien d'objet technique et froid.
Alors peut-être juste, on va profiter du fait que vous soyez arrivés tous les deux, Sébastien, Yannick, Raoul, Helmut, peut-être en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que vous êtes allé chercher Pierre Lemarchand pour écrire cette biographie ?
Parce qu'on se connaît depuis longtemps, on est amis, et que moi j'ai toujours apprécié la façon qu'a Pierre de parler de la musique, donc ça m'a, comme c'était un disque qu'on a voulu faire avec simplicité. Il y avait un côté comme ça, authentique, sincère, honnête, qu'on partage, je pense. Et donc voilà. Et puis il écrit super bien sur la musique, donc ça aurait été dommage de se priver de ses talents.
Bon, on va vous retrouver dans quelques instants pour parler un petit peu, juste pour terminer. Pierre, qu'est-ce que vous avez de prévu là, alors, après le travail sur Bachoun, sur Karine Dalton, ces histoires de biographie, l'émission de radio, y a des choses sur lesquelles vous travaillez en ce moment ?
Bah, pour le même éditeur que Alain Bachoun, Fantasy Militaire, il y a un livre qui va apparaître là en novembre, que j'ai coécrit avec Thierry Jourdain, sur Dominica, justement, le premier disque de Dominica, La Fossette. Et puis là, je suis en train d'écrire pour le même éditeur, et ce sera le troisième ouvrage qui paraîtra, je pense, vers la fin 2020, sur Nico et son album The End, voilà, qui date de 1974. Là, je suis en plein là-dedans, quoi.
Encore du plaisir à partager avec vous très bientôt. Merci Pierre Lemarchand.
Merci
beaucoup. Je rappelle que donc vos deux livres sont toujours disponibles. Karine Dalton, Le Souvenir des Montagnes, chez Camion Blanc Édition, et puis aux éditions Densité, collection Cosmogonie, Fantaisie Militaire, sur l'histoire de la création de l'album du même nom d'Alain Bachoun. Eldorado, l'émission à retrouver sur différentes radios, dont HDR à Rouen et Principe Actif à Évreux. À bientôt Pierre.
À bientôt.
Salut.
Radio Lomax.
Et avant de retrouver la Maison Tellier, demain ici au 106, Gringe et Coef, groupe normand, mais aussi le révérend John Wilkins et Kepa pour ouvrir, que nous avions déjà reçu il y a quelques mois avant son départ pour le Canada, où il est allé rejoindre Timber Timber, avec qui il a enregistré notamment ce morceau. Au 106, Kepa, l'ancien skater pro, amateur de guitare dobro et d'un blues rustique et plein de liberté, il va assurer la première partie du révérend John Wilkins.
Radio Lumax.
Elle est de retour à la Maison Tellier 3 ans après la sortie de l'album Avalanche, de retour au Bercail, nos artisans de belles chansons qui font le grand écart toujours un peu entre les grands espaces américains et les falaises d'Étretat. Ils sont aujourd'hui primitifs, modernes, les racines peut-être des futurs hommes modernes, les encore un peu naïfs, bientôt conscients, se projetant vers l'avenir, laissant dans le rétroviseur des souvenirs d'enfants pour se construire dans les étoiles. Les cuivres sont toujours là, l'écriture toujours poétique et limpide, les guitares plus rock que jamais. Bonsoir à tous les deux, donc, même si on s'est déjà un peu parlé.
Bonsoir.
Salut.
Sébastien Miel, Yannick Marais, Raoul et Helmut Tellier, Helmut au chant, Raoul à la guitare, Léopold à la trompette, Alphonse à la basse et Alexandre à la batterie. Ils sont tous là ce soir. Depuis l'album précédent, il y a eu la BO d'un court-métrage, la bande-son d'un spectacle de danse, un spectacle avec Marina Hans autour de vos chansons les plus inspirées par la littérature sur la scène de la Maison de la Poésie à Paris, en associant des passages de Camus, Barjavel, Houellebecq ou Maupassant aux chansons chansons de beauté pour tous, à partir d'extraits d'ouvrages qui avaient donc influencé Yannick lors de l'écriture de cet album-là. Là encore, pour ce nouveau disque, et je me suis appuyé sur la biographie de Pierre Lemarchand, du coup, il est question, si j'ai bien compris, de Jean Genet et d'Apollinaire. Est-ce que ça veut dire qu'avant toute chose et comme point de départ, il y a quand même la littérature avec la Maison Tellier ?
Il y a des mots.
C'était ça, c'est les bouquins dont tu parles, c'était des trucs pour amorcer la pompe un peu. Raoul avait ses musiques, un certain nombre de compos comme ça, et quand il n'y a pas forcément de texte au début, on attaque, on prend un truc déjà existant, quoi, et de préférence qui sonne bien.
Ouais, moi je me suis rendu compte que c'était une façon assez pratique pour écrire de la musique, de s'appuyer sur un texte existant. Et comme souvent, nous, on écrit d'abord les musiques avant les textes, voilà. On a pioché, moi j'ai pioché dans de la poésie pour avoir un truc calibré, pour imaginer des mélodies ou des choses comme ça, quoi.
Mais ça joue, ça colore les choses un peu d'une façon ou d'une autre ou pas ?
Oui, ça peut donner un rythme, ouais. Déjà. Après, faut bien commencer par quelque part, en fait, c'est vraiment ça.
C'est un peu un truc en double aveugle, hein, parce que moi, quand je lui fais écouter les musiques, il sait pas quels textes ont inspiré les musiques, donc...
C'est une méthode de boulot, quoi.
Quel était l'état d'esprit après Avalanche et la longue tournée qui a suivi Avalanche au moment où il a fallu se dire on part sur quoi maintenant ?
Oui, il y a eu un petit peu de temps à la suite de la dernière tournée. On a fait en sorte de gagner en autonomie, nous, sur la façon de bosser.
Vous avez monté un label.
Ouais, ouais, entre autres. Et une fois après, les chansons sont venues de manière plutôt cool. On avait commencé dès l'automne 2016 avec Raoul à se faire des sessions d'écriture de guitare-voix. Donc, on a fait ça 2 années de suite. On n'avait pas un besoin urgent de fournir des chansons. Donc, elles se sont faites comme ça au fur et à mesure du temps. Et quand il a fallu décider de rentrer dans un studio, ça s'est fait de manière vraiment simple. Ouais.
L'envie de gagner en autonomie, la création de ce label ou une obligation?
Une nécessité. Peu des deux. Ouais.
Mmh. Ouais.
Et du coup, ça vous permet d'être beaucoup plus...
Circuit court. Quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais. Mmh. Et ça vous convient bien?
Ouais, ça marche bien. C'est un engagement.
C'est du travail en plus.
Beaucoup de travail en plus.
Donc, voilà.
Mais bon, après... On verra on sera d'autant plus content de récolter les fruits de ce travail, quoi.
Alors on a failli faire une émission en invitant des enfants à vous poser des questions, des artistes d'art brut ou singulier, parce que forcément ce titre primitif moderne, ça fait penser à une certaine forme de naïveté. L'art primitif, c'est un peu l'art brut aussi. Il y a cette notion de virginité un peu dans ce titre-là. Vous vouliez dire quoi exactement avec primitif moderne?
Un peu tout ça, et puis la naïveté. Pourquoi pas? C'est plus dans la démarche, en fait, qu'on pratique une forme d'artisanat. Nos chansons, elles sont, encore une fois, fabriquées avec sincérité, honnêteté, parfois un peu de candeur, peut-être. Tu vois, il n'y a pas forcément d'arrière-pensée. Et donc ça peut avoir un côté primitif. C'était une manière de nous définir en tant que groupe à ce moment-là de notre vie de groupe. C'est qu'on a gardé quelques racines du début de ce qu'on faisait avec un côté très brut. Et puis on a essayé, pour s'amuser, pour changer et puis pour pas s'ennuyer, de rajouter des sonorités un peu plus modernes, histoire de s'amuser, encore une fois.
Alors, tout est pardonné, et il y a dans votre musique une constante depuis Beauté pour tous, c'est justement, j'ai l'impression, moi, de vouloir le meilleur, de soigner quelque chose, peut-être notre tristesse d'adulte. C'est le rôle de tout artiste, sans doute, qui se respecte, hein, d'être naïf, de penser que l'art, la musique peuvent soigner notre insatiable besoin de consolation, pour citer l'auteur Stieg Dagerman. C'est comme ça aussi que vous envisagez votre rôle d'artiste ?
Ça va pas, c'est pas théorisé comme ça, vraiment pas. C'est ça vient au fur et à mesure. Et moi, j'ai toujours bien aimé les musiques qui mélangent un peu ces trucs qui normalement vont pas ensemble, mais la mélancolie avec une musique joyeuse ou inversement, je trouve que ça marche bien. Ça crée des connexions intéressantes dans les oreilles, dans le cerveau, et c'est pas. Encore une, c'est pas plus réfléchi que ça.
En même temps, Beauté pour tous, moi, je me souviens aussi de comment vous communiquiez un petit peu autour de ça. C'était champagne, quoi.
Oui, parce que c'est difficile de. Enfin, quand t'es artiste, c'est difficile de proposer autre chose que ça, en fait. Que d'embellir un peu. Enfin, moi, en tout cas, à titre personnel, c'est ce qui me fait croire en l'humanité, et ce qui fait que je suis content de me lever le matin, c'est que je sais que je peux tomber sur une œuvre d'art ou un bouquin qui va me retourner la tête et qui va me faire du bien, quoi, tout simplement.
On voit cette main de Cro-Magnon ou de Néandertal, hein, qui laisse son empreinte sur une paroi, geste primitif aussi, hein, sur la pochette de l'album. C'est quoi vos cavernes modernes à vous?
Mince, il y a cavernes modernes.
Non, mais c'est pas. Alors, pour le coup, elles sont pas qu'à nous, hein, je pense. C'est ce truc de se réfugier chez
écrans.
Soi, ouais, notamment. Donc ça, c'est pas évident à manier comme concept. Ouais. Ça peut être très vite un peu kitsch, tu vois, de dénoncer ça ou de donc les cavernes comme ça, c'est une manière de faire un raccourci brutal. Mais l'idée de sortir et d'aller vers la lumière, elle est effectivement depuis un moment dans nos chansons, je pense. Sur Au bas fragile, je disais déjà ça. Sur Second souffle, je le disais déjà. Donc oui, on cherche tous des manières de rendre ça un peu plus facile à vivre, tout simplement, les jours qui suivent, quoi.
Il y a cette thématique aussi de l'adolescence qui est très présente sur ce disque-là. Pourquoi cette thématique-là? Pourquoi est-ce que vous avez...
C'est l'heure.
C'est le moment.
C'est le moment.
Vous êtes en pleine crise d'adolescence.
Non, justement.
Non, c'est l'heure d'en parler, quoi.
Ouais, c'est
de revenir là-dessus.
C'est l'heure de faire un petit bilan, tu vois. Mm-hmm.
Mais sans être passéiste ou nostalgique. Hein. C'est... c'est un sujet d'inspiration comme un autre. Il faut en trouver. Ça fait 6 albums, quoi. Donc les choses, je pense que ces choses-là, j'avais envie d'en parler déjà avant, mais là, c'était effectivement le bon moment.
Bah ouais, il faut avoir suffisamment de recul pour le faire. Et là, on arrive à l'âge où, quand tu regardes dans le rétroviseur, tu dis bon, ok, j'ai fait 6 à ça, où j'en suis aujourd'hui. On a atteint un stade, toi, où, même si c'est un peu cliché, on est un peu plus posé qu'avant, quoi. Donc forcément, quand tu sais à peu près de quoi vont être faits les quelques années qui viennent, tu regardes ce qui s'est passé derrière, tu as le temps de faire ce bilan-là. Je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde.
C'est une période romantique, en tout cas romanesque. Il y a de quoi aller piocher. Ouais.
D'ailleurs, des adolescents, vous en avez croisé cet après-midi.
Ouais, c'est chouette.
Vous êtes dit quoi? Qu'est-ce qui s'est dit à ce moment-là?
C'est des rencontres comme on en fait plein, comme on en fait régulièrement, avec des élèves de collège, des élèves de lycée. On essaie de combler un peu le fossé, l'écart qu'il peut y avoir, parce que la musique a beau être un langage universel, elle a quand même plein de chapelles. C'est intéressant d'essayer de se retrouver à mi-chemin entre eux et nous. Mais ce qu'ils se disent, ils nous posent des questions sur notre vie d'artiste, ouais, de musicien. Donc nous, on valorise tout le temps ce genre de rencontres, c'est important. Et c'est chouette de les avoir du coup ce soir au concert, ça va être rigolo, parce que c'est pas leur musique naturelle, je pense. Et l'idée, c'est d'essayer de faire en sorte qu'ils passent quand même un très bon moment.
Il y a quelques jours, Miossec était ici au 106.
Ah oui.
Il représentait la nouvelle scène française dans les années 90. Il explique que c'est le morceau Le Courage des Oiseaux qui lui a permis de se lancer dans l'écriture. Il y a eu chez vous un morceau, une chanson qui a débloqué des choses. C'est peut-être un peu comme ça au début, wow. Pas évident. Est-ce que vous. Vous êtes la génération qui arrivait juste derrière les Dominica, les Catherine,
ouais.
Et Miossec d'ailleurs,
ouais, ouais.
Qui eux-mêmes arrivaient juste après Noir Désir, avec la figure un peu emblématique d'un Bachung. Il y a une vraie filiation dans tout ça, quoi.
Clairement, on reste là-dedans. Le premier album de Miossec et je pense le morceau d'ouverture là, quelque chose comme ça. C'était en 95. Moi, ça m'avait. Alors, c'était un peu tôt pour me dire je vais écrire à mon tour, mais il y avait une manière de ramener la musique vers des terres qui me plaisaient beaucoup plus par rapport à ce qu'il pouvait y avoir en ouais. musique française dans les années 90 et de montrer que c'était possible de faire un truc avec ses tripes et un truc qui sonne bien en plus. Donc réellement, Miossec, s'il fallait donner un morceau, moi je donnerais celui-là pour le fait d'écrire, d'oser écrire.
Ah oui, sur Boire, c'est ça ?
Ouais, ouais. Premier album. Il est 20h30, on va vous lâcher. Peut-être dans les générations suivantes, parce que maintenant vous en êtes arrivé à un stade où vous pouvez commencer à observer ce qui se passe derrière et vous dire, qui porte le flambeau derrière ? Vous avez repéré des gens ou pas ?
En chanson ?
Ouais.
Dans ce format-là, il y a des jeunes... avec type Hervé, Séverin, des gars comme ça qui se réapproprient le fait de chanter en français en l'enrobant à leur manière, quoi. Mais nous c'est ça, enfin on nous a catalogué folk, western, tout ça et ça tout va bien. C'était juste cette musique là, c'était une manière de rentrer dans le métier de faire des chansons. Et il faut bien commencer par quelque part. Mais l'idée c'est d'évoluer, et c'est ce qu'on a essayé de faire sur cet album et sur cette tournée.
Radio Lomax, c'est fini pour aujourd'hui. Les concerts au 106 cette semaine. Ça commence demain avec Orphaned Land, donc mardi 9 avril. Et jeudi 9 avril, concert de Therapy Taxi. On se retrouve la semaine prochaine.
On me dit parfois Helmut, ne feras-tu pas fausse route quand tu dis que c'est plié. Fais pas comme la dernière fois, ne me laisse plus dans l'état où tu m'avais retrouvé. Sur mes cahiers d'écolier, sur les portes du lycée, j'ai écrit ton nom, puberté. Puberté, j'écris ton nom sans bien savoir la raison. J'ai fini par accepter de m'être perdu quelque part, mû par les écrans blafards et une enfance à la fenêtre. Dimanche soir, Louis de Funès, dortoir et livre de fesses et un double décimètre. D'amour enflammé, sans jamais noter l'adresse. Depuis qu'Héros est mon berger, je n'ai jamais de rien manqué. Enfin guéri de ma jeunesse, grâce à cette fille un matin, croisée dans ma salle de bain et qui disait aimer. Mes yeux, mais dans mes yeux, ce qu'elle aime, c'est juste un reflet d'elle-même qu'elle voit multiplié par mieux. Avoir 20 ans sans croiser âmes sœurs qui vivent, heureux les simples d'esprit qui semblaient avoir compris comment.